Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le casse-tête du pass vaccinal serait entré en vigueur lundi. Un gendarme blessé par balle dans des manifs anti-pass en Guadeloupe. Et puis Airbus qui annule une commande de 50 avions, ce n'est pas rien.
Nos deux débats du jour, la politique l'emporte-t-il désormais sur le sanitaire après les annonces de Jean Castex? Nous serons avec le docteur Robert Sebag. Et puis, une question qui va peut-être vous surprendre, donc je prends mon élan. Sommes-nous de plus en plus cons? C'est la question posée cette semaine en une du magazine Society.
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne l'assouplissement annoncé hier par Jean Castex. Avez-vous l'impression de voir le bout du tunnel? Eh bien, vous dites non à 73%. La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Toujours le même programme.
Oui, c'est ça, ça ne change pas beaucoup. Alors, on a quand même pas mal de soleil sur une large moitié sud du pays, avec un petit peu de grisaille localement au pied des Pyrénées, dans le sud du Massif central ou encore en région lyonnaise. Et plus on remonte vers le nord, plus on trouve encore localement un petit peu de grisaille tenace, et ce sera le cas tout l'après-midi, de la Normandie à la Picardie, au bassin parisien, en Champagne ou encore en Lorraine. Côté température, c'est stable, 4 degrés à Nancy cet après-midi, 5 degrés à Reims et à Lyon, 7 à Cherbourg et Paris, 10 à Montpellier et 14 à Ajaccio.
Merci Valérie, à tout à l'heure 13h pour le programme du week-end.
Oui.
RTL Midi.
On attend encore le feu vert du Conseil constitutionnel, ce sera cet après-midi, mais sauf contre-ordre, le pass vaccinal entrera donc bien en vigueur lundi, Jean Castex l'a confirmé hier soir.
Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV.
Bonjour Virginie Garin. Sur le papier, ça a l'air simple. 3 doses, tu peux tout faire ou presque. Dans les faits, il y a un certain nombre d'exceptions, les 16-17 ans d'abord.
Alors eux, 2 doses suffisent en fait, car la dose de rappel n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire à partir de 17 ans. Donc pour les 16-17 ans, bien, pas de 3e dose pour avoir un pass valable. Alors cela dit, le Premier ministre l'a annoncé hier, ils vont pouvoir quand même la faire s'ils le souhaitent, car la dose de rappel sera désormais possible pour les ados, les 12-17 ans, dès lundi.
Il y a aussi le cas de ceux qui viennent de recevoir leur première dose ou qui s'apprêtent à la faire.
Alors ça, c'est pour inciter les non-vaccinés à franchir le pas. Ils vont avoir une petite dérogation. Ils pourront avoir un pass vaccinal dès le jour de leur première dose, donc dès lundi s'ils l'ont déjà eu. À une condition, chaque fois qu'ils voudront l'utiliser, aller dans un restaurant par exemple, ils devront en plus présenter un résultat négatif de test PCR ou antigénique de moins de 24 heures et ils devront faire ensuite leur 2e dose dans un délai d'un mois, sinon le pass sera supprimé. Et alors là, pour le récupérer, il leur faudra un schéma vaccinal complet, donc un rappel, ils devront attendre 3 mois de plus.
Bon, va falloir tous bien calculer et vérifier ça. Merci à vous Virginie.
Je pensais qu'entre la 3e dose, entre 2 doses, une fois qu'on a la 3e, j'arrive jamais avoir la bonne information. C'est 4 mois ou 6 mois?
Alors, pour avoir le pass vaccinal, il faut effectivement 7 mois aujourd'hui. Vous aviez jusqu'à 7 mois. Mais à partir du 15 février, ce sera 4 mois.
Parce que, par exemple, là, sur mon pass, c'est mis expiration 22 juin 2022.
Ah, vous avez combien de temps?
20 novembre 2021. Qu'est-ce que ça va? 20 novembre Pfizer, 20 novembre 2021, expiration 22 juin 2022. Alors, et non. Je me dis, est-ce que ça va changer,
vous
cette date
7
d'expiration?
Mois, à partir du 15 février, Pascal, il faudra vous faire vacciner. Vous aurez 4 mois pour le faire.
Sinon, donc, il ne faut pas juste regarder son pass vaccinal?
Non. Parce que les règles changent à partir du 15 février.
Eh bien écoutez, merci, c'est
très
précis.
Ça change tout le temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Non mais c'est très intéressant parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont dans mon cas.
Passe vaccinal donc, et en même temps un calendrier d'assouplissement des restrictions. Le 2 février d'abord, fin du masque en extérieur, des jauges, fin des jauges et des 3 jours de télétravail obligatoire. Trop tard, répond ce midi le vice-président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Pour nous, c'est un manque de confiance vis-à-vis des entreprises et des employeurs. On nous a demandé beaucoup de choses. Les employeurs ont parfaitement fait ce qu'il fallait pour préserver la santé de leurs salariés. Et au bout de tout ça, on nous dit télétravail obligatoire. Et puis attention, si vous ne respectez pas, vous aurez une amende. C'est pas comme ça qu'on envisage les choses. Nous, on préfère toujours l'incitation à l'obligation et les encouragements aux sanctions.
Jean-Eudes Duménil de la CPME, joint pour RTL par Aurélia Valarié. Autre date à retenir, c'est le 16 février. Réouverture cette fois des discothèques, reprise des concerts debout, du café au comptoir. À l'école, pas question d'assouplir le protocole, en tout cas pas avant la fin des vacances scolaires de février. C'est ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui. Près de 19 000 classes sont fermées, soit 3,5% d'entre elles. Dit comme ça, c'est peu, c'est toutefois du jamais vu depuis le printemps 2020.
Alors la stratégie du gouvernement est-elle la bonne? Eh bien, on en débattra dès 12h40 avec le docteur Sebag, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière.
Dans le même temps, la situation reste très tendue en Guadeloupe. Nouvelle manifestation hier contre le pass vaccinal. Un gendarme a été blessé par balle, Alice Moreno.
Oui, gravement blessé au genou. Il est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Lui et ses collègues gendarmes et policiers dispersaient une manifestation non autorisée hier aux Abîmes, lorsqu'ils ont été visés par ces tirs. Ils ont également été la cible de cocktails Molotov, de pierres, de boulons. Tout cela alors que la nuit venait à peine de tomber. Des rassemblements de manifestants anti-vax se sont formés en fait dans plusieurs secteurs de l'île. Une quarantaine de personnes ont tenté de pénétrer dans le centre hospitalier de Basse-Terre. Par exemple, la directrice de l'établissement a dû être exfiltrée. 6 personnes ont été interpellées. Le procureur de la République s'exprimera cet après-midi. Il a déjà annoncé l'ouverture d'une enquête.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Et puis à Paris, le leader des Zouaves, ce groupuscule d'extrême droite, a lui été incarcéré. Il avait été interpellé hier après avoir enfreint son contrôle judiciaire en participant à une manifestation anti-pass sanitaire. C'était samedi.
La politique à présent et séquence retrouvailles, opération réconciliation pour Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.
La candidate des Républicains est en déplacement en Haute-Loire sur les terres de l'ancien patron des LR. Bonjour Vincent Derosier, vous êtes sur place pour RTL.
Bonjour.
La mise en scène a été soignée.
Oh oui, Amandine, des retrouvailles bucoliques sous la neige à un peu moins de 1000 mètres d'altitude. Valérie Pécresse arrive avec 10 minutes de retard pour bien montrer que la candidate, c'est elle. Le président de la région, tout sourire sous son masque, lui fait visiter une maison de santé que sa région subventionne massivement. Et à la sortie, les deux ennemis de 2019 le jurent la main sur le cœur. La hache de guerre est enterrée.
C'est évidemment très important de faire ce déplacement en compagnie d'un grand président de région, Laurent Wauquiez.
Valérie a fait un début de campagne qui était très important, qui consistait à tourner les pages du passé. Et je serai totalement engagé à ses côtés dans cette campagne, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse.
Voilà pour les mots apaisants. Quant aux images de la réconciliation, eh bien elles seront encore plus belles cet après-midi puisque Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez déambuleront côte à côte dans la magnifique cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay.
Vincent Derosier en Haute-Loire pour RTL. Dans le Jura, l'émotion est bien sûr toujours très forte après l'horrible accident de voiture qui a coûté la vie à 4 lycéens. Noé, Sarah, Natacha et Nathan étaient tous scolarisés dans le même établissement. Ils rentraient d'ailleurs de cours ce soir-là. Stéphane Haru est le proviseur du lycée Paul-Émile Victor de Champagnol.
Marlène, ce matin, est au recueillement. J'ai réuni l'ensemble des élèves et des personnels dans le hall de l'établissement pour faire part à tout le monde de combien les élèves qui n'étaient pas parmi nous en ce moment du fait de l'accident nous manquaient à tous, que nous étions en train de construire l'hommage nécessaire, mais qu'il fallait laisser le temps aussi à ce que les obsèques des élèves décédés puissent avoir lieu pour respecter le deuil et l'intimité des familles. Un chapiteau a été installé à l'entrée de l'établissement pour permettre à tous, les élèves, anciens élèves, visiteurs, de venir partager par solidarité l'émotion qu'ils peuvent avoir. La cellule psychologique a pu voir et entendre énormément d'élèves, hier soir jusque tard également pour les élèves internes, est maintenue demain et sera réouverte également lundi et la semaine prochaine.
Le proviseur du lycée de Champagnol dans le Jura au micro RTL de Bertrand Frasson.
À Genève, c'est une rencontre décisive qui a lieu en ce moment même.
Face à face entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Lavrov et Blinken, autour de la crise ukrainienne. On a eu droit à une poignée de main, mais pour l'instant, pas de réelle avancée. La Russie a d'ailleurs prévenu qu'elle n'attendait rien de cette réunion. Autre bras de fer économique, celui-ci, ce face à face entre Airbus et Qatar Airways. L'avionneur a carrément décidé d'annuler une commande. 50 avions, ce n'est pas rien, surtout dans le contexte actuel, Arnaud Touche.
Oui, 6 milliards de dollars au prix catalogue, en effet. Mais pour bien comprendre pourquoi Airbus annule sa commande, je vous emmène dans le monde merveilleux du contentieux. Tout s'est décidé hier lors d'une audience à Londres. Le problème initial, il portait en fait sur des Airbus A350. Ce sont des avions long courrier. Qatar Airways explique que la peinture de ces A350 s'écaille et en conséquence, les clous au sol. En dédommagement, la compagnie a réclamé tout de même une indemnisation de 618 millions de dollars. Airbus a refusé et maintient qu'il n'y a pas de problème de sécurité et que ces avions peuvent voler. Mais Qatar Airways ne l'entend pas du tout de cette oreille et refuse de réceptionner les autres A350 qu'elle avait commandés. Du coup, en réaction, Airbus a décidé d'annuler une autre commande passée il y a quelques années par la compagnie du Golfe, ces 50 Airbus A321. Ils devaient être livrés dès 2023. Alors 50 Airbus annulés, ça peut paraître beaucoup, bien sûr, mais le constructeur européen a en fait 6250 avions monocouloirs à livrer dans les prochaines années. Ça permet de relativiser un peu, bien sûr, et surtout à Airbus de mettre la pression sur Qatar Airways.
Des avions monocouloirs.
Oui, tout à fait. Un seul couloir.
Diplomatie du contentieux. Merci beaucoup Arnaud Touche du service économie de RTL, du rugby. RTL vous le révélait dès hier, hein, plusieurs cas de Covid au sein du stade toulousain. 10 dont Antoine Dupont, le demi-mêlé. La rencontre face à Cardiff prévue demain en Coupe d'Europe est malgré tout maintenue. Écoutez Clément Poitrenaud, l'un des entraîneurs du stade toulousain.
On a respecté les protocoles comme on le fait depuis le début de la pandémie. À partir du moment où on a su qu'on avait des cas lundi, on s'est entraîné par petits groupes en extérieur. Mardi, il y a eu de nouveaux cas, donc on a décidé d'annuler l'ensemble des entraînements pour respecter le protocole, c'est-à-dire que suite au test de jeudi, on a fait notre entraînement uniquement avec des joueurs qui étaient négatifs et compétitifs pour le match. Ce qui nous a permis évidemment de monter l'équipe que vous avez pu voir et qui a été annoncée.
Et voilà, on se prépare au mieux pour recevoir cette équipe de Cardiff et valider notre qualification.
Avec Clément Poitrenaud au micro RTL de Patrick Hisson. Maintenu aussi le match Lyon-Saint-Etienne, ceci du foot, prévu ce soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h et ce sera bien sûr à suivre sur RTL, dans RTL Foot des 20h. Et puis à l'Open d'Australie, qualification de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale. Il a battu le Chilien Garin en 3-7 chez les dames. La tenante du titre, Naomi Osaka, est-elle éliminée dès le troisième tour?
Notre premier sujet dans un instant, retour sur les annonce de Jean Castex et cette question, le politique l'emporte-t-il désormais sur le sanitaire? On sera avec le docteur Sebag.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Un seul chiffre pour le démontrer, au cours d'une année normale, l'épidémie de grippe provoque en moyenne 10 000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver. Avec Omicron, nous atteignons ce chiffre non pas en 3 mois, mais en 5 jours seulement.
C'était hier soir lors de sa conférence de presse. Jean Castex appelait chacun à ne pas sous-estimer Omicron. Dans le même temps, le Premier ministre a malgré tout annoncé un début d'assouplissement des restrictions, un calendrier en tout cas, on l'a évoqué tout à l'heure dans le journal. Alors la stratégie du gouvernement est-elle la bonne? Le politique est-il en train de l'emporter sur le sanitaire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour docteur Sebag.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quand on regarde ce matin les unes de la presse, on peut lire les taux se desserre, la sortie nous tend les bras, l'horizon s'éclaircit, enfin des bonnes nouvelles. Est-ce que ça a été votre sentiment à vous, hier, quand vous avez entendu Jean Castex?
Ben on a un sentiment un petit peu contraire, parce que d'un côté, en étant à l'hôpital, et j'en viens là, directement, on voit qu'en hospitalisation traditionnelle, on est plein. C'est-à-dire que cette épidémie d'Omicron, c'est une épidémie pas du tout de réanimation et de soins critiques, qui nous effrayait, mais une épidémie d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on est à 27 000, quand au maximum on était à 32 000. Alors il ne reste pas longtemps. Donc c'est très bien.
C'est quoi pas longtemps?
24 heures, non, Patral, 24 heures, 48 heures, un peu d'oxygène et en général ils sortent. Et de plus en plus, on essaye de faire prendre des soins à domicile. Parce que ça ne sert à rien d'occuper un lit, parce que c'est des programmations, etc. Après, on a les chiffres, ces fameux chiffres de contamination. Donc les gens, ils disent, attendez.
Plus de 400 000 chaque jour.
14 millions de cas depuis décembre de contamination. Alors les contaminations, merci à l'Omicron, parce qu'il entraîne uniquement des infections de la sphère ORL, pas d'infections profondes au niveau pulmonaire. Donc de ce côté-là, on ne voit pas d'augmentation au niveau réanimation. Par contre, effectivement, au niveau hospitalisation. Ça, c'est le premier point.
C'est des gens vaccinés en hospitalisation ou pas?
Alors, vous avez une majorité de personnes qui ne sont pas vaccinées, malheureusement, mais qui font des formes entre guillemets, qui nécessitent une hospitalisation. Et nous avons des gens immunodéprimés, donc vaccinés, chez lesquels la vaccination ne marche pas. Et vous avez quelques personnes qui ont attendu beaucoup pour faire la dose de rappel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, on a encore un peu de delta. Et on l'a eu assez longtemps, le delta. Alors aujourd'hui, il est moins de 10%, le delta. Donc vous avez à peu près 92% d'Omicron et 8% de delta. Et c'est le delta, en réanimation, c'est quand même une grande majorité de delta, parce que les gens, ils restent moins souvent en réanimation. Et les décès qu'on voit tous les jours, qu'on en voit quand même autour de 200, ce sont des gens qui ont été hospitalisés il y a 3 semaines, un mois. Malheureusement,
c'est delta.
Ça n'a pas marché.
C'est les gens delta. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent Omicron ?
Aujourd'hui, on n'en a pas, mais vous avez sur la PHP, attendez, il faut les vérifier un par un. Sur la PHP aujourd'hui, vous avez à peu près 16 à 17% d'Omicron en réanimation. Des gens qui ne sont pas vaccinés ou des gens avec des fortes comorbidités ou des immunodéprimés.
Je reviens, pardon, et à la question du coup, avec tout ça, parce que ça, c'est, vous nous avez posé le contexte.
Vous faites un panorama.
Voilà, exactement, et qui est très important puisque vous le vivez au plus près tous les jours. Mais du coup, vous validez la stratégie du gouvernement ou pas ?
Attendez, parce que on m'a beaucoup téléphoné aujourd'hui, vis-à-vis de vos auditeurs, on a parlé de ce sous-variant.
Oui.
Donc les gens sont très très inquiets. Alors, c'est le BA2. C'est un petit frère de l'Omicron. Il y a à peu près 28 mutations. Comment on l'a remarqué ? Au Danemark, où tout allait bien, vous vous souvenez, c'était... Mais le Danemark, à la différence de la France, ils savent séquencer. Nous, on n'est pas très bons. Il faut le reconnaître, on l'avait vu sur le Delta. Enfin... Et le séquençage vous permet de voir s'il y a une modification du génome, si vous voulez, de la carte d'identité du virus. Et eux, ils sont aperçus que tout d'un coup, ça remontait. Pas en réanimation, mais qu'en contamination, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient normalement au pic, ça descendait. Et donc, ils ont séquencé, ils ont vu ce petit frère de l'Omicron.
Mais il est moins dangereux ?
Alors, il semble être plus contagieux. Donc,
plus contagieux qu'Omicron, qui était déjà plus contagieux.
Quand c'est plus contagieux, en général, c'est moins virulent. Et souvent, si vous voulez, on arrive à la fin de ces virus, quand on parle d'endémie. Donc, on n'est pas du tout inquiet. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit hier, on n'est pas du tout inquiet. On a quelques cas de ce BA2 en France. On n'en a pas en réanimation. Il faut séquencer, savoir où on en est. Donc voilà, là je fais. Après, ce qui a été dit. Alors effectivement, il y a une certaine prudence, parce qu'on se dit, attendez quand même, on va voir.
Trop prudent ?
Peut-être.
Si on avait tout ouvert hier soir, parce que c'est ça la question d'Amandine, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Alors, écoutez, tant qu'on n'a pas aujourd'hui une réelle baisse, vous savez que mon collègue Arnaud Fontanet avait parlé d'un sommet, vers le 15 janvier, un pic de contamination. On n'est pas sur un pic. On l'a vu, puisqu'on est passé de 300 000 à 400 000, 14 millions de personnes.
Mais s'il n'y a pas de mort.
Tout à fait.
S'il n'y a pas de mort, vous me dites, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de danger. Donc que les gens soient contaminés, j'ai envie de dire, et alors ?
Oui, mais sur le nombre, monsieur Pro, sur le nombre, vous
avez
des gens...
Il y en a 14 millions ?
Sur le nombre, vous avez des gens d'hospitalisation conventionnelle. Quand nous sommes à 27 000 personnes aujourd'hui, quand le pic au maximum de la première vague était à 32 000, il y a une certaine prudence. Moi, je suis plutôt optimiste, si vous voulez, mais... il y a toujours un mais, si vous voulez. Le mais, il est là. Le 2, c'est bien. Par contre, effectivement, les gens debout le 16, ça me paraît complètement. Moi, j'aurais également sur les écoles, j'aurais pas attendu la fin février parce qu'il faut absolument modifier ce protocole.
Vous auriez enlevé le masque maintenant à l'école ?
D'abord le protocole parce que les gens n'en peuvent plus.
Les tests.
Je me serais posé la question sur les petits sur le masque parce qu'il y a un vrai choc psychologique. Ça suffit.
Et à l'intérieur.
Pardon ?
À l'intérieur le masque. Oui, pas simplement à l'extérieur.
Bon, à l'extérieur c'était évident.
Mais dans les cours d'école, il y a toujours le masque aujourd'hui. Dans les cours d'école aujourd'hui, il y a toujours le masque.
Ils ne veulent pas en entendre parler avant la fin du mois de février. Et donc là-dessus, moi je pense que là-dessus on aurait pu être. Et je crois que les parents attendaient ce type de recommandation.
Vous allez rester avec nous. Parce que vraiment, vous allez rester avec les auditeurs vont pouvoir vous écouter et surtout vous poser des questions. Il est 12h50, on marque une pause et nous abordons le deuxième sujet. Alors, vous allez pouvoir donner votre avis, parce que ça concerne un peu la pandémie. Sommes-nous de plus en plus cons ? Voilà une question intéressante. C'est la question posée cette semaine en une du magazine Society. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Leblanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Mmh. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste?
Oui.
Et bien lui c'est pareil, c'est juste.
C'est une séquence culte du cinéma et du théâtre d'ailleurs. Vous aurez bien sûr reconnu le dîner con à chaque fois. Je ris, vous aussi, quand je vous vois dans le studio. Même chose aussi avec ça.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, dialogue signé Audiard, bien sûr. Alors justement, qu'est-ce qu'un con? Sommes-nous de plus en plus cons? C'est ce que se demande cette semaine le magazine Society, et c'est notre deuxième débat dans RTL Midi. Bonjour Théo Delmat.
Bonjour.
C'est vous qui signez cette enquête dans le magazine Society cette semaine. Alors, avant de débattre pour savoir si on est de plus en plus cons ou pas...
Vaste question,
et je pense qu'on pourrait en avoir pour des heures. Un con, c'est quoi?
Un con, c'est quoi? Ce qui est fantastique avec le con, c'est qu'il n'y a pas de con étalon. Il n'y a aucune personne sur Terre qui est considérée comme un con par l'ensemble de toutes les autres.
On est tous le con d'un autre, c'est ça?
Exactement, vos cons ne sont pas les miens et inversement. Un con, basiquement, si on devait cocher des cases et définir une définition objective, on en aurait pour jusqu'à 23h30. Mmh. Subjectivement, un con, c'est quelqu'un qui est moins bien que soi. Voilà, basiquement. Et derrière ça, vous pouvez mettre qui vous voulez.
Oui, mais il y a les sales cons, les petits cons, les gros cons.
Effectivement.
Donc il y a des subtilités.
Ah, mais il y a tout le monde. Mais c'est pour ça que dans ce papier, on ne s'est pas intéressé à la question de définir un con, sinon.
Non, mais.
Sinon,
mais oui. Alors vous êtes intéressé notamment à l'histoire d'intelligence. Un con peut être quelqu'un de moins intelligent.
Et de plus, souvent aussi.
Ou pas, ouais, enfin là c'est pareil, c'est toujours pareil, il y a débat. Et du coup je vous repose la question que vous posez à la une de votre magazine, sommes-nous de plus en plus cons?
Alors, sommes-nous de plus en plus cons? Probablement que non. Mmh. Est-ce qu'on les voit plus? En revanche, ça c'est une certitude.
À cause des réseaux sociaux?
À cause des réseaux sociaux, entre autres. Mais vous savez, chaque génération a considéré une passion de la génération qui l'a suivie comme une connerie. Au 18e, c'était le théâtre. Mmh. Au 19e, c'était les romans. Après, ça a été le rock'n'roll. Je me souviens que mon père me racontait qu'il écoutait du Johnny et que son propre père à lui trouvait que c'était une hérésie. Mmh. Et après, ça a été la télé. Maintenant, c'est le tour des réseaux sociaux. Demain, on ne sait pas ce que ce sera, mais voilà.
Mais par exemple, il faut des questions concrètes. Le masque à l'extérieur, nous dit-on, ne sert à rien. Est-ce que c'est con de le maintenir? Ça, c'est une question simple.
En tout cas, l'époque... Alors, je ne vais pas répondre à la place du docteur Sebag, mais oui. L'époque...
Parce que c'est ça qu'il y a dans votre question. Bien sûr. L'époque provoque la connerie.
On est con, puisque... hein, vous titrez votre article.
Non, mais puisqu'on porte un masque à l'extérieur, et on nous dit, je parle sous l'autorité du docteur Sebag, que ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment très con.
Docteur.
Si c'est vrai.
Quand des gens prennent ce type de décision, ils essayent toujours de le rationaliser et de donner des raisons scientifiques. Il y a pire que ça. Parce que moi, j'ai toujours... Il y a pire que ça. Moi, j'avoue, je le dis en toute transparence, l'idée de dire, vous ne pouvez pas boire un café debout, mais vous pouvez le boire assis. Alors là, j'ai beau...
Dans le même bar.
Je me
creuse
la tête dans le même bar. Et le café à côté de chez moi, il a mis des chaises au pied du comptoir... Il a mis des chaises, donc les gens sont assis au pied du comptoir. Alors je me dis, effectivement, le virus, il passe en haut, mais il passe pas là. Pardon, alors là, j'ai vu, puisque vous m'avez posé la question, vous allez voir, ça va faire le lien, j'ai vu que le 16 février, pas le 2, moi je pensais quand même, la première mesure, c'est qu'on puisse boire un café debout.
Non, c'est le 16.
C'est le 16, ça passe après. Bon, alors j'ai quand même, je me suis dit quel était le truc, et je termine. On me dit qu'effectivement, il y a plus de dialogue quand on est debout et qu'on parle avec les autres.
C'est pour les jeunes, notamment
etc.
le soir, les bars de nuit.
Mais moi, j'ai pensé à la chanson de Brassens quand j'ai vu votre titre.
Théo, la connerie, ça fait vendre, en tout cas.
La connerie, ça fait vendre, bien sûr. La preuve, je suis ici, on en fait
oui,
une pour
on
Society.
En parle.
Mais on s'est demandé effectivement si c'était pas devenu un espèce de petit filon, si c'était pas un peu comme le développement personnel. Il y a des
les livres se vendent super bien, tous les livres autour des cacons dans le titre.
On prend l'exemple d'un livre de Jean-François Marmion qui était venu ici il y a quelques années dans l'émission de Flavie Flamand, Psychologie de la connerie, qui était
formidable ce livre.
Très très bien, qui a été une trilogie publiée dans une toute petite maison d'édition qui vend 3000 exemplaires en moyenne, ça a été un best-seller traduit en 20 langues. Bien sûr que c'est un succès.
Est-ce qu'il y a plus de cons que de connes?
Oh là. C'est masculin.
Oh là.
Non,
j'ai l'impression qu'il y a plus de cons que de conne.
On dit plutôt gros con que grosse conne, souvent.
J'ai l'impression.
C'est vrai, mais n'est-ce pas une question de sémantique? Non, je pense que la connerie n'a pas de sexe, malheureusement.
Ah, j'ai l'impression que c'est masculin, quand même.
Ah ouais?
Bah, en voiture, par exemple, il y a plus de cons au volant que de filles.
Il y a d'autres qui vous diraient que les femmes conduisent très mal.
Ah non,
donc là,
je trouve que... Pascal, vous avez votre définition du con, j'ai la mienne.
Bah, celui qui s'énerve, par exemple, les femmes au volant, ça, c'est, je trouve que le volant, c'est justement là, on voit ce qui se passe dans les embouteillages.
Le comportement.
Voilà, et il me semble, mais bon.
En fait, ce qu'on cache derrière tout ça, c'est une disparition de la nuance. C'est une disparition de l'implicite, de la compréhension de l'implicite, une perte du jugement critique, de la compréhension fine des choses. Ça, c'est ce que la science met derrière ce que nous, basiquement, nous mettons derrière le mot connerie.
Il y a un côté méchant aussi, parfois, dans
Bien
la
sûr.
Connerie. Hein, on est d'accord. Il y a quelque chose d'obstiné.
Mais moi, j'ai envie de dire une chose importante qui me concerne et qui concerne les médecins. Je me refuse à dire que les non-vaccinés, je précise bien, les non-vaccinés sont des cons. Je l'ai lu beaucoup, et c'est pas ça la réalité. Et j'en ai voulu à la déclaration du président de mettre les non-vaccinés et pas les antivax. Et je fais une grosse différence entre des non-vaccinés et des antivax. En tous les cas, c'est ma pratique. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital ou que je vois médicalement, qui sont pas vaccinés. Je leur explique, mais c'est pas des antivax. Donc attention à ça. Parce que j'ai lu beaucoup que les non-vaccinés étaient des cons.
Bon, bah, c'était pas con du tout, en tout cas, comme débat. Et c'était
merci,
vraiment,
Théo.
Vraiment merci. C'est dommage que vous puissiez pas rester parce que les auditeurs auraient adoré échanger avec vous. Il est 12h58. Dans une seconde, le rappel des titres. Et puis, on va être avec le docteur Sebag pour parler des mesures qui seront levées 2 et 16 février. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous allons évoquer évidemment les mesures levées à partir du 2 et 16 février par le gouvernement. Et notamment, pour commencer, nous allons évoquer les discothèques. Nous sommes avec Morgan ou Morgane ?
Morgane, Pascal. Bonjour, Pascal.
Morgane au masculin. Vous êtes donc gérant de discothèque ?
Oui, exactement, et porte-parole du collectif SOS à Cherzé en détresse.
Et donc, vous allez ouvrir quand, le 16 février ?
Exactement, le 16 février, on aurait aimé plus tôt, mais ce sera le 16.
Mais vous êtes content, il y a un côté un peu syndrome de Stockholm là-dedans, tout le monde est content,
finalement. Non,
on n'est pas tout le temps. Mais en revanche, je ne sais pas s'il faudra garder le masque ou pas à l'intérieur des boîtes de nuit, mais on va en parler dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
Ouais, réouverture donc des discothèques le 16 février, reprise aussi ce jour-là des concerts debout, du café au comptoir, à l'école. En revanche, pas question d'assouplir le protocole avant la fin